Géopolitique, Christophe Paget.
Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous pour un géopolitique consacré au Brexit. Et quelque chose me dit que ce ne sera pas le dernier. Il y a deux semaines, Londres et Bruxelles se mettaient d'accord après de longues négociations sur la première phase du Brexit. Le Brexit, on rappelle, cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne sur laquelle les Britanniques s'étaient prononcés par référendum l'an dernier. La conclusion de cette première phase, est-ce que c'est une victoire pour la Première Ministre Theresa May ou pour Bruxelles ou pour les deux? Que prévoit le texte de cet accord? Quid de la question irlandaise dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui a failli le faire capoter? Que reste-t-il encore à négocier sur le Brexit? Beaucoup de choses, manifestement. Les Britanniques sont-ils toujours aussi sûrs de vouloir quitter l'Union Européenne? Avec nous pour en parler, Florence Fauchet, professeure à Sciences Po au Centre d'études européennes. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Vicard, économiste au CEPI, le Centre français d'études et de recherche en économie internationale, en charge du programme scientifique analyse du commerce international. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec nous au téléphone aussi, Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des questions internationales et européennes. Bonjour.
Bonjour.
Londres et Bruxelles se sont donc mis d'accord sur la première phase du Brexit et les négociations ont été longues et douloureuses. Elles ont failli échouer à la dernière minute. Elles portaient sur trois points. L'addition que doit régler Londres en quittant l'Union Européenne, l'addition du divorce, les expatriés, c'est-à-dire le droit des Britanniques dans l'Union et ceux des ressortissants de l'UE au Royaume-Uni. Et enfin, dernier point et pas des moindres, la question irlandaise. Florence Fauchet, que nous dit cet accord d'abord sur le règlement financier de la séparation?
La Grande-Bretagne reconnaît qu'elle a un certain nombre d'engagements qu'elle réglera. Peu de temps, ceci dit, après l'accord, le ministre en charge du Brexit a expliqué que la facture ne serait payée que s'il y avait un accord. Donc, un accord commercial. On se retrouve dans une situation où finalement, on a un peu l'impression qu'ils ont signé, ils se sont mis d'accord et puis non, pas complètement.
Alors Theresa May a quand même un petit peu mangé son chapeau, puisqu'elle proposait de payer 20 milliards d'euros. Finalement, ce serait entre 40 et 45 milliards.
Bien sûr, la Grande-Bretagne est liée par l'Union européenne à un certain nombre d'engagements. Sortir de l'Union européenne ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas engagée pour les années à venir. Et il faut en passer par là.
Oui, parce que le Royaume-Uni doit respecter sa contribution pour le budget, ce qui était prévu, le budget actuel, mais aussi, et c'est ce qu'ont rajouté en fait les Européens, les engagements hors budget, comme par exemple les retraites des fonctionnaires britanniques.
Bien sûr, c'est un souci important pour l'Union Européenne et pour les 27 qui vont se devoir combler en quelque sorte le trou que va laisser la fin de la contribution britannique.
Alors, la somme est énorme, 40-45 milliards. Est-ce que c'est un étonnement pour la population britannique, on va dire, vu que ce qu'on leur a vendu, c'est un Brexit pour, en fait, arrêter de perdre de l'argent à cause de l'Union européenne?
Oui, la campagne a été un peu tronquée en termes d'informations, dans la mesure où ce qui a beaucoup circulé pour ceux qui faisaient campagne en faveur de la sortie de l'Union européenne ont surtout insisté sur les 350 millions qui iraient par semaine aux frais de santé, au système de santé. Donc l'impression que beaucoup d'électeurs britanniques qui ne connaissent pas vraiment l'Union européenne ont eue, c'est que finalement c'était beaucoup beaucoup de coûts et qu'on pourrait sortir sans frais.
Et en fait non.
Et en fait non.
Ça n'est pas possible. Christian Lequen, on parlait de 40-45 milliards. En fait, ce sont les Britanniques qui donnent ce chiffre parce que, en fait, dans l'accord qui a été passé pour la première phase, ce qui est écrit, c'est juste une règle de calcul, en fait.
Oui, laquelle règle de calcul, au début, était refusée par les Britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques ne voulaient pas, dans les premières phases de la négociation, que l'on établisse des critères. Ils considéraient qu'on devait avoir une négociation simplement de type politique, ce qui a été très rapidement inacceptable pour les 27, et donc ils se sont ralliés au fait d'avoir une méthodologie de calcul. Et le chiffre que vous citez, 40 à 45 milliards, c'est finalement un compromis entre ce que le Parti conservateur voulait d'abord négocier, c'est-à-dire 20 milliards, et puisque l'Union européenne, enfin les 27, avaient mis sur la table, qui était une position maximaliste, 80 à 100 milliards.
Ça n'est toujours pas tout à fait clair, c'est-à-dire que les Britanniques vont avoir près de 10 ans pour régler cette addition, ça pourrait augmenter avec le temps?
Ben, il faut maintenant faire le calcul précis, et c'est bien la raison pour laquelle les 27 voulaient des critères permettant d'opérer ce calcul. Oui, c'est pas du tout certain qu'on ne dépasse pas les 45 milliards, mais je pense que si les Britanniques Britanniques veulent l'accord commercial et c'est quand même cela qui est le plus important pour eux. Ils n'ont pas tellement le choix. Ils avaient surestimé très largement leur capacité à imposer leurs conditions dans la première phase. Pour une raison très simple, c'est qu'ils pensaient que les 27 étaient beaucoup plus divisés qu'ils ne l'ont été. Et notamment qu'il y avait une division entre la France et l'Allemagne. Or, ça n'a pas été le cas. Et cela, ça réduit considérablement la marge de manœuvre.
Alors, le deuxième point de ce premier accord, ce sont les expatriés. Theresa May, en plus de cet accord, leur a envoyé carrément une lettre ouverte en leur expliquant qu'ils pourraient continuer leur vie comme avant. Et cette question des expatriés, ce n'est pas un petit sujet, puisqu'il y a quand même près de 3 millions d'Européens qui vivent au Royaume-Uni, plus d'un million d'expatriés britanniques sur le continent européen. Florence Fauché, Londres et Bruxelles étaient d'accord là-dessus ou là encore il a fallu négocier?
Il a fallu négocier dans la mesure où pendant quelque temps le sort de ces 3 millions d'Européens et en particulier d'Européens de l'Est au Royaume-Uni pouvait être un peu pris comme pièce de négociation. En tout cas, a été perçu comme un point de chantage possible de la part des Britanniques. Donc la difficulté est que le Royaume-Uni refuse de s'engager de manière très ferme sur la possibilité pour ses citoyens européens de rester au Royaume-Uni. Et il y a une sorte de flou juridique qui fait que beaucoup se posent véritablement la question de savoir quel sera leur sort d'ici la sortie, quelles seront la capacité de leurs partenaires à rester, puisqu'il y a beaucoup de mariages binationaux, la nécessité aussi pour un certain nombre d'entre eux de démontrer qu'ils sont légitimement et au Royaume-Uni depuis un certain nombre d'années, qu'ils subviennent à leurs propres besoins, etc. Donc il y a un certain nombre de conditions qui sont élaborées mais qui ne sont pas encore très très clair.
Et puis il y a aussi des inquiétudes, toujours sur cette question des expatriés, par rapport aux procédures judiciaires avec la Cour de justice de l'Union européenne. Un mot là-dessus?
Bien sûr, ce qui va être important, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils pourront faire appel à la Cour de justice européenne en cas de désaccord de procédure avec le Royaume-Uni. La Grande-Bretagne veut sortir, une des raisons pour lesquelles elle entend sortir de l'Union européenne, ce qui a été avancé, est qu'il y a un rejet de la Cour européenne de justice. Ceci dit, la plupart des conflits qui ont émergé sont en fait avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas celle de l'Union européenne. Donc, ceci dit, là encore, pour la plupart des soutiens du Brexit, la distinction entre les deux n'est pas très claire.
Alors, ce qui est dit dans l'accord, c'est que les juges britanniques devront indéfiniment porter une attention particulière aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça veut dire que sur ce point aussi, ce sont les Européens qui ont gagné?
Oui, les Européens ont gagné sur beaucoup de points parce qu'ils sont 27 à négocier contre un et que aussi que la préparation de l'équipe européenne a été extrêmement solide, les négociateurs extrêmement fermes, tandis que dans certains cas, les positions britanniques étaient beaucoup plus fluctuantes avec, semble-t-il, une certaine indétermination dans ce qu'ils cherchaient à obtenir. Et finalement, ce qu'ils cherchaient à obtenir, c'était conserver le plus de flou possible.
Dernier point, et c'est celui qui a failli mettre par terre cet accord pour la première phase du Brexit, c'est le dossier irlandais. Christian Lequen, le Brexit a relancé cette question de l'unification de l'île qui est coupée en deux depuis 1922 entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Que vient faire le dossier irlandais dans le Brexit?
Effectivement, le parti Sinn Féin a mis en avant le fait qu'il fallait profiter donc du Brexit pour relancer la question de l'unification, mais en même temps, c'est pas la perspective, si vous voulez, la plus réaliste. Ce qui est très important dans l'affaire irlandaise, c'est qu'il y a une porosité complète de la frontière pour les échanges économiques et les échanges de personnes.
Oui, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
Exactement, entre l'Ulster, territoire britannique, et la République d'Irlande. Et ça se traduit par de nombreux flux commerciaux, mais pas seulement. On va tantôt chez le médecin, si on est en République d'Irlande, en zone frontalière, dans l'Ulster. Si on est dans l'Ulster, on peut aller à l'hôpital en République d'Irlande, etc., etc. Il n'y a pas de frontière physique. Alors, puisque le territoire de l'Ulster sort du marché intérieur, mais aussi de l'union douanière,
oui, évidemment, du marché unique européen.
Exactement. Logiquement, ça devrait aboutir à un réétablissement de la frontière. Or ça n'est pas acceptable. Et donc on a trouvé dans l'accord une sorte de porte de sortie politique où on dit effectivement l'Ulster sortira bien du marché intérieur et de l'union douanière, mais en même temps appliquera toutes les règles du marché intérieur. Et on ne rétablira pas de frontières physiques. Alors, comment tout ça va être mis en œuvre? Certains parlent du rétablissement possible d'une frontière physique entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, mais ça, c'est absolument inacceptable pour les unionistes.
Oui, les unionistes nord-irlandais qui ont failli faire capoter ce point du premier accord.
Parce que le Parti conservateur, n'ayant pas la majorité absolue à la Chambre des communes, il est obligé de s'appuyer sur les unionistes pour gouverner, et donc ils ont une marge de manœuvre qui est importante. Alors derrière ça, il y a aussi une autre question qui est la symbolique de la paix. Le retour à la paix s'est fait sous l'égide de l'Union européenne, mais aussi avec des fonds européens. Et c'est vrai que en rétablissant une distinction nette entre l'Ulster et la République d'Irlande, on touche aussi à cette symbolique de la paix et de la réconciliation.
Et puis les fonds européens d'aide dont vous parlez disparaîtraient évidemment dans le cadre d'une sortie de l'Union européenne.
Il disparaîtrait pour l'Irlande du Nord, bien entendu, puisque l'Irlande du Nord ne pourrait plus prétendre avoir des fonds, type fonds structurels ou programmes quels qu'ils soient, de la part du budget de l'Union européenne.
Florence Fauchet.
Oui, et il ne faut pas oublier d'ailleurs que les Irlandais du Nord ont voté à 55% pour rester dans l'Union européenne. Si l'Irlande du Nord pèse actuellement, c'est comme Christian Le Cann l'a dit, parce que en juin dernier, la première ministre qui espérait, en dissolvant le Parlement, obtenir une très très large majorité, s'est retrouvée en fait en minorité et dépend finalement de ce petit parti qui ne représente qu'une fraction véritablement de, enfin la moitié des sièges effectifs. Elle se trouve à la merci de ce DUP, et à cause de ce poids des DUP, elle est bien sûr aussi beaucoup plus à la merci des plus fervents brexiteurs de son propre parti. Donc elle se trouve dans une position beaucoup plus fragilisée finalement qu'elle ne l'était il y a encore un an.
Mais là, ce que disait Christian Le Cann, ce qui a été décidé dans cette première partie de l'accord, c'est que on se dirige vers un alignement complet sur les règles du marché unique et de l'union douanière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'Irlande du Nord serait coupée du Royaume-Uni. Enfin, on s'en sort pas, à moins que le Royaume-Uni reste aussi de son côté dans le marché unique européen. Mais Theresa May avait vendu le Brexit en disant « on se retire du marché unique européen ».
C'est la quadrature du cercle. C'est pour ça que cet accord a été difficile à trouver. C'est pour ça que, évidemment, le DUP n'est pas du tout d'accord. Il n'y a pas de solution à ce problème, véritablement. Ou alors, il va falloir faire preuve d'énormément de créativité. Comment empêcher la réapparition des frontières physiques entre soit l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, mais sinon entre l'île britannique, l'île principale, et l'Irlande et le reste du continent. Un des soucis qui se posent pour les Britanniques actuellement, c'est de réfléchir à comment va-t-on faire cette frontière, comment va-t-on contrôler les produits qui transitent, est-ce qu'on va se retrouver avec Douvres transformées en parking géant sur des kilomètres et des kilomètres.
Oui, Vincent Vicard, je me tourne vers vous. Justement, la grande peur de l'Europe, c'est que à ses portes, elle est un pays, une entité qui pratique le dumping, tout simplement.
Effectivement, c'est une des grandes peurs, et dans les positions de négociation de la Commission européenne initiale, il y avait effectivement cette question du minimum de standards appliqués par le Royaume-Uni pour négocier un accord pour les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc cette question des standards, alors des standards, ça va être pour les questions effectivement des normes, mais c'est aussi beaucoup plus globalement pour l'industrie financière, pour la taxation des entreprises, etc., etc. Donc le Royaume-Uni, c'est un des principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne à ses portes. C'est pas un pays tiers comme les autres, et donc il y a une question de concurrence qui se pose et qui se pose dans le futur.
Et là, pour cette question irlandaise, l'accord n'a pas l'air de résoudre grand-chose, cette première partie. Il y a des députés européens qui parlent d'une bombe à retardement, en fait.
Absolument, les tensions en Irlande du Nord restent très présentes. L'accord de paix qui a une dizaine d'années maintenant n'avait été arraché finalement que grâce à l'Union européenne, mais aussi au leadership du gouvernement travailliste. Mais il reste des groupes armés, enfin plus ou moins armés, en tout cas très agités, et qui sont prêts à se relancer si besoin est dans des conflits, pas forcément armés, mais en tout cas la violence persiste et est un véritable souci.
Christian Le Cann, dès que cet accord a été rendu public, le Premier ministre indépendantiste écossais a demandé que les arrangements particuliers pour l'Irlande du Nord soient ouverts aux autres nations du Royaume. Voilà, même avec cette phrase assez floue qui est dans cet accord, on ouvre en fait la boîte de Pandore.
Mais absolument. On a dit à l'instant, Florence Fauchet a rappelé que les Irlandais du Nord ont voté à 55% contre le Brexit. Il faut dire que les Écossais ont voté à 62% également contre le Brexit, c'est-à-dire c'est encore plus qu'en Irlande du Nord. Dès que cet accord, cette proposition très floue a été rendue publique, il y a eu une déclaration de Mme Sturgeon, la première ministre de l'Écosse, pour dire ben, si on accorde les bénéfices du marché intérieur à l'Irlande du Nord, nous l'Écosse, nous souhaitons avoir la même chose. Bon, c'est politiquement, j'allais dire, c'est une bonne guerre, mais ça va vraisemblablement faire perdre un peu de temps encore, puisqu'il faudra que Londres discute avec Édimbourg.
Comment est-ce que vous jugez les uns les autres ces premières négociations? Est-ce qu'on peut dire qu'au final, c'est Londres 0, Bruxelles 1, Florence Fauché?
Oui, je pense que la principale difficulté semble venir de l'impréparation ou des résistances des Britanniques à affiner ou à affirmer leur position. Ils gardent les cartes très proches, très près d'eux pour se garder toutes les options. Mais d'un autre côté, progressivement, leurs efforts pour diviser les Européens n'ont pas marché. Leurs efforts pour retarder les processus, pour essayer d'obtenir des concessions n'ont pas marché.
Christian Lequen.
Je pense que les Britanniques sont confrontés à deux problèmes. Effectivement, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire au sein du Parti conservateur. Et d'ailleurs, on l'a vu, Madame May est confrontée à des rebelles des deux côtés. Il y a les rebelles qui veulent un Brexit dur, et puis il y a les rebelles qui, au contraire, voudraient rester dans le marché intérieur parce qu'ils étaient contre la sortie. C'est le fameux amendement Grieve d'il y a un peu plus d'une semaine. Mais le deuxième point aussi important, c'est que les Britanniques ont très largement sous-estimé la capacité des 27 à apparaître unis. Et à mon avis, cela s'explique par le fait qu'ils ont voulu toucher aux règles essentielles du marché intérieur. Et ça n'était pas acceptable. Notamment, une grande erreur politique a consisté à proposer à un certain moment que le marché intérieur soit à la carte, c'est-à-dire qu'il comprenne tout sauf la libre circulation des personnes. Là, quand vous commencez à toucher à une règle de principe comme celle-ci, ça ne devient plus acceptable pour des pays qui ont toujours été très proches des Britanniques, comme la Suède, par exemple. Et ça a été une erreur politique, à mon avis, de la part des Britanniques, qui a finalement, en voulant toucher au principe, uni le partenaire européen.
Vincent Vicard, j'imagine que la City suivait de très près, les places financières londoniennes suivaient de très près cette première phase des négociations. Comment elles les ont vécues?
Alors, juste pour revenir, ce résultat des négociations, il reflète aussi la symétrie, enfin le déséquilibre entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. L'Union européenne, ça représente 50% du commerce du Royaume-Uni. De l'autre côté, le Royaume-Uni représente moins de 10% du commerce de l'Union européenne dans son ensemble. Donc, à part pour certains pays comme l'Irlande, pour lesquels cette question en termes économiques est particulièrement importante, pour la plupart des pays européens, les coûts, en tout cas à attendre, ils sont d'une ampleur bien moindre que celle du Royaume-Uni. Donc je pense que le résultat des négociations, il reflète aussi ce déséquilibre des positions économiques. Et on va le voir d'autant plus maintenant qu'on va rentrer dans les négociations commerciales. Pour revenir à la question de la City, ils sont surtout en attente d'avoir des certitudes sur l'évolution future du cadre réglementaire. Et notamment, c'est la question fondamentale pour la City, c'est le passeport européen. Est-ce que les institutions financières vont être capables, comme elles le font aujourd'hui, de fournir des services financiers aux entreprises et aux particuliers dans l'Union européenne à partir de leur succursale au Royaume-Uni? Ça, a priori, l'accord ne change pas grand-chose. On s'oriente vraiment vers la fin de ce passeport européen. Et donc, on voit bien que les banques britanniques, européennes et étrangères, américaines qui sont localisées dans la City commencent à identifier de manière de plus en plus précise les nouvelles localisations de leurs activités. Et on voit que c'est plutôt dispersé. Il y a des décisions qui sont en faveur de Francfort, d'autres en faveur de Paris, d'autres en faveur de Dublin. Donc, on ne s'oriente pas pour l'instant, en tout cas, vers un exode massif, puisqu'il y a un avantage à l'agglomération des activités dans la City, qui était préexistant à l'Union européenne et qui va perdurer. Mais effectivement, il y a une interrogation sur les délais de négociation et sur quand est-ce que ces activités vont partir. On sait qu'une partie des activités vont migrer vers le continent parce qu'il y aura plus de passeport européen, mais les détails de l'accord vont vraiment dicter le détail des activités qui vont être relocalisé.
Oui, ce qui intéresse surtout les marchés financiers, c'est la deuxième phase des négociations. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Géopolitique, une pause, 10 minutes, le temps d'un nouveau journal sur RFI.
Géopolitique, Christophe Paget.
Géopolitique, seconde partie, toujours consacrée au Brexit. Après l'accord sur la première phase des négociations pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, accord difficile à trouver et qui ne résout pas tout, singulièrement sur la question irlandaise. On va maintenant se pencher sur la situation de Theresa May, la première ministre britannique, situation toujours difficile, et sur la suite des négociations qui, les dirigeants européens l'ont dit lors du dernier sommet, la suite sera nettement plus difficile que le début. Avec nous pour en parler, toujours Florence Fauché, professeure à Sciences Po, au Centre d'études européennes, Vincent Vicard, économiste au CEPI, le Centre français d'études et de recherche en économie internationale, en charge du programme scientifique Analyse du commerce international, et puis au téléphone avec nous, Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des questions internationales et européennes. Avant d'en venir à la seconde phase des négociations, on va parler un peu de Theresa May, hein, la première ministre britannique qui a commencé à négocier dans une position difficile après son revers aux élections législatives de juin dernier, puisqu'on le disait, elle a perdu la majorité absolue à la Chambre des communes. Florence Fauché, après ce premier round de négociations, elle est affaiblie ou renforcée ?
Elle est affaiblie, elle reste affaiblie, mais je pense qu'il faut remonter un tout petit peu en arrière. Je voudrais juste faire un petit point sur son arrivée au pouvoir au lendemain du référendum de juin 2016. Elle avait fait campagne de manière très discrète, mais elle avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne. Et c'est quand David Cameron a démissionné et quand les leaders du Brexit ont été incapables de se mettre d'accord ou d'obtenir le soutien, qu'elle s'est trouvée être en quelque sorte celle qui allait sauver la mise. Et elle s'est engagée de manière très ferme avec un parti qui avait la majorité grâce aux élections de 2015, un parti qui avait donc la majorité absolue et une première ministre qui devait composer entre des Brexiteers forts dans son parti et ayant remporté le référendum, mais aussi un groupe parlementaire où un certain nombre d'entre eux avaient fait campagne pour rester dans l'Union européenne. Ceci dit, elle s'est engagée de manière ferme et ça a entraîné quand même le choc du référendum, a entraîné la classe politique dans la conscience qu'il était très difficile de ne pas sortir de l'Union européenne, qu'il était impossible de trahir le choix du référendum. Forte de cette majorité et aussi d'une avance très très importante dans les sondages, elle a décidé de dissoudre la Chambre des communes au printemps, s'attendant à passer d'une majorité d'une dizaine de sièges à une majorité peut-être de 80 sièges, puisque le Parti travailliste, mené par celui qu'elle considérait comme un gauchiste, ne pouvait pas l'emporter.
Or,
elle a perdu la majorité absolue, elle s'est retrouvée en déficit et contrainte de négocier avec un petit parti réactionnaire et unioniste, auquel elle a dû céder beaucoup de choses, mais cette défaite a également affaibli sa position au sein du Parti conservateur, alors qu'elle le tenait très bien, étant la seule qui pouvait sauver la situation pendant toute cette période.
Oui, là, en octobre dernier, il y a une tentative de putsch.
Bien sûr, mais en même temps, il est très difficile pour le Parti conservateur de savoir par qui l'a remplacé. Les candidats potentiels qui fassent l'unanimité, en qui le parti et les soutiens, au-delà des adhérents du parti puisse faire confiance, ne sont pas légion. Donc, à la fois, elle est très fragile, à la fois, beaucoup de gens veulent la remplacer, mais en même temps, il n'y a pas véritablement de candidat crédible, et il y a sans doute un job particulièrement difficile à remplir, qui contribue à faire que, tant qu'elle tient, peut-être qu'elle sera un bon bouc émissaire pour encaisser aussi le poids du désastre que pourrait être le Brexit.
Christian Lequen, Theresa May, affaiblie ou renforcée après cette première phase de négociation?
Je pense d'abord qu'elle est confrontée à un travail impossible et je trouve que face à cette situation impossible, dans le fond, elle s'en sort pas trop mal. Et c'est un peu aussi d'ailleurs le sentiment des Britanniques puisque dans les sondages, sa popularité a plutôt eu tendance à augmenter. Elle est quand même quelqu'un qui était contre le Brexit, or il lui revient de négocier ce Brexit. Elle est arrivée avec la majorité à la Chambre des communes. Elle ne l'a plus, son parti est totalement divisé sur ce qu'il faut faire, c'est quand même un travail impossible. Et moi je trouve que dans le fond, pour l'instant, elle est la seule à s'en sortir à peu près bien. Je ne vois pas qui au sein du Parti conservateur pourrait faire le travail mieux qu'elle. Voilà, c'est une personnalité effectivement qui n'est pas politiquement très charismatique, mais je trouve que dans la situation actuelle, elle est un peu la seule au sein du camp conservateur qui peut mener cette mission impossible.
Mais les députés ne l'épargnent pas, hein, à la Chambre des communes, à Westminster. Là, ils viennent d'approuver un amendement qui donne au Parlement un quasi-droit de veto sur l'accord final.
Oui, et c'est venu du côté de ceux qui étaient contre la sortie.
Mais c'est un amendement qui était proposé par un conservateur.
Exactement, mais un conservateur qui s'appelle Dominic Grieve, exactement, car il reste quand même au sein du parti conservateur une petite partie de députés qui continuent à considérer que l'avenir de la Grande-Bretagne devrait être dans l'Union européenne. Ils ont plutôt tendance à diminuer et à diminuer progressivement depuis 1992, car il ne faut pas oublier que à l'origine, c'était les conservateurs qui étaient en faveur de l'adhésion à ce qu'on appelait le marché commun et les travaillistes qui étaient contre. Si vous prenez le référendum de 1975, d'ailleurs il y a des belles photos de Mme Thatcher faisant campagne pour la participation britannique au marché intérieur. Et puis à partir des années 90, il y a eu un changement à mesure que le néolibéralisme notamment s'est imposé avec la révolution thatcherienne au sein du parti conservateur. Donc aujourd'hui, il reste quand même quelques députés qui sont toujours sur cette vieille tradition, mais ils sont plutôt minoritaires.
Florence Fauchet, pour ce qui est de l'opposition, le Labour, les travaillistes, avec à leur tête Jeremy Corbyn.
Jeremy Corbyn avait fait une campagne assez modeste, assez peu enthousiaste pour rester dans l'Union européenne.
Et pas vraiment pro-européen. En
fait. Pas vraiment pro-européen, mais surtout les travaillistes, comme la plupart des autres partis, acceptent l'issue du référendum, c'est-à-dire que la sortie de l'Union européenne est tenue comme quelque chose qui va se passer. En revanche, c'est les conditions de la négociation et le type d'accord qui les préoccupent et la possibilité de rester dans le marché unique. La question de l'Union européenne est rarement au centre des préoccupations de Corbyn dans les questions au Premier ministre. C'est quelque chose sur lequel le parti travailliste reste relativement flou. Un des partis qui soit les plus fermes là-dessus reste les libéraux-démocrates, qui avaient été dans une coalition avec les conservateurs avant les élections de 2015 et qui ont demandé un nouveau référendum. Les Écossais aussi sont très fermement pour rester dans l'Union européenne. Ceci dit, la question d'un abandon de la procédure de Brexit ne se pose pas et la question d'un nouveau référendum n'est pas véritablement soulevée non plus, à part par les libéraux-démocrates.
Vincent Vicard, est-ce que les milieux financiers sont derrière Theresa May? Est-ce qu'ils la soutiennent par rapport à ces négociations sur le Brexit?
Alors, ils auraient clairement préféré rester dans l'Europe. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question du passeport européen. Pour eux, c'est une bonne chose de pouvoir fournir des services financiers à l'ensemble des consommateurs de l'Union européenne. Ce n'est plus le cas. Je pense qu'il y avait un soutien. La question maintenant, c'est effectivement pour eux d'avoir de la certitude sur ce qui va se passer. Et c'est vraiment le calendrier de négociation qui est important pour les entreprises. C'est des décisions de long terme qui vont se prendre sur la localisation de certaines activités qui sont stratégiques, qui représentent pas forcément beaucoup d'emplois. Et donc, c'est vraiment des questions très techniques qui vont se poser et qui demandent du temps pour s'adapter. Et donc là, on arrive au moment où, pour la City, mais en fait pour l'ensemble des grandes multinationales, la question de quel va être le calendrier de négociation qui devient de plus en plus serré. On arrive à presque un an du terme des 2 ans qui sont prévus par l'article 50. Et donc après, quelle période de transition va être négociée, vers quel type d'accord on s'oriente, c'est ces détails-là qui sont importants. Et effectivement, ils sont en demande plutôt de certitude sur l'horizon.
Alors justement, on en vient à cette deuxième phase de négociation qui doit porter sur la future relation entre Londres et Bruxelles. Les dirigeants de l'Union européenne ont déjà prévenu, ces négociations seront beaucoup plus difficiles que les premières. Christian Lequesne, pourquoi ?
Oui, alors ça d'abord c'est une position de négociation, c'est-à-dire que effectivement, quand vous écoutez les déclarations de Michel Barnier, il essaie de...
Michel Barnier qui est donc
qui est donc ancien ministre des Affaires étrangères français et ancien commissaire chargé de négocier les intérêts des 27, il commence toujours par dire que les choses vont être difficiles, qu'il n'y aura pas un accord très différent de celui qui a été négocié avec le Canada récemment, le fameux accord CETA. Et ça, c'est une position de négociation. On commence par être dur dans le but d'évoluer vers un compromis.
Alors, cette deuxième phase des négociations doit porter sur quoi ?
Ben, elle doit porter sur la relation contractuelle future entre le Royaume-Uni qui deviendra donc un pays tiers et l'Union européenne. Et il s'agit surtout d'organiser le libre-échange, et en particulier le libre-échange commercial. Donc, c'est la question de la négociation d'un accord, comme l'Union européenne en a de nombreux avec les pays tiers du monde entier. Sauf qu'on a, eu 45 ans de présence britannique au sein de l'Union européenne, et il va de soi que l'harmonisation des normes et des standards est quand même très différente de celle existant dans la plupart des pays tiers. Dans ce sens que lorsque le négociateur britannique, M. Davies, dit « nous voulons un accord Canada plus », je crois qu'au final, il n'a pas tout à fait tort, c'est un peu ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire qu'on aura un accord de libre-échange, mais étant donné que l'harmonisation des normes et des standards est quand même très avancée, je pense que ça ira au-delà de ce que l'Union européenne a signé avec le Canada.
Pour autant, Theresa May n'est pas vraiment rentrée dans les détails, hein. Elle a juste parlé de partenariat spécial et approfondi. Est-ce que ça veut dire qu'elle doit encore définir une position commune à domicile, chez elle, hein, au Royaume-Uni, ou est-ce que ça c'est déjà clair?
Je pense qu'elle sera effectivement tout au long de la négociation complètement tenue par le débat au sein du Parti conservateur, mais aussi sur ces sujets précis, par les desiderata des milieux d'affaires, de Confederation of British Industry, bien sûr de la City. C'est là où maintenant le lobbying des intérêts économiques va s'exercer de façon très serrée sur Madame May, et habituellement le Parti conservateur est tout de même obligé de tenir compte de ce que les intérêts économiques souhaitent, puisque c'est un parti qui est plutôt soutenu par le milieu des affaires.
Vincent Vicard, Christian Lequen le disait, l'hypothèse de travail privilégiée par les Européens, c'est un accord de libre-échange sur le modèle de celui établi avec le Canada, c'est-à-dire le CETA. Mais le CETA ne couvre pas tout.
Alors le CETA ne couvre pas tout, bien sûr. Aucun accord n'est aussi approfondi que l'Union européenne. Quand on essaye de voir un peu l'impact sur le commerce de l'Union européenne par rapport aux autres accords, on s'aperçoit qu'il crée 2 à 3 fois plus de commerce qu'un accord classique. Et donc très clairement, on ne voit pas de type d'accord, même si on va un peu plus loin que le CETA, on ne voit pas d'accord qui puisse se rapprocher de l'intégration commerciale permise par l'Union européenne.
Et le CETA ne couvre pas les services.
Alors le CETA couvre en partie des services, mais la question qui se pose, par exemple pour les services financiers qui sont particulièrement importants, mais c'est vrai pour d'autres services de la question de la reconnaissance des diplômes pour les activités d'avocat, par exemple, ou d'architecte. Il peut y avoir aussi la question pour l'industrie financière de qui est le régulateur. Qui est le régulateur en dernière instance, et donc le régulateur, les Européens, pour pouvoir fournir un certain nombre d'activités, il faut que l'établissement et donc les fonds propres soient localisés dans l'Union européenne et donc soumis au régulateur. Donc ça, c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à gérer sans intégration des normes et donc sans cour de justice européenne finalement. Et donc on a beau avoir effectivement une harmonisation des normes aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'il y a une reconnaissance mutuelle de normes? Et ça c'est un aspect fondamental de l'Union européenne, c'est à partir du moment où un produit est vendu dans un pays de l'Union, il peut être vendu sur tout le territoire de l'Union européenne. Et donc il n'y a pas besoin de faire enregistrer, de montrer qu'on est conforme aux normes du pays de destination, et donc ça c'est un coût. Et la deuxième chose c'est que ces normes, elles ont beau être harmonisées aujourd'hui, on n'a aucune idée de comment elles vont évoluer dans le futur. Et donc, c'est encore une fois la question de qui va juger en dernière instance. Et donc, on revient à la juridiction de la Cour de justice européenne. Donc, effectivement, les Britanniques rappellent en général cette question. Effectivement, on est aujourd'hui harmonisé en termes de normes. On a le même niveau de normes, même si elles sont différentes. Par contre, dans le futur, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et donc, de toute façon, le fait de sortir du marché unique, on sait que ça aura un coût important en termes de commerce. Quels que soient les domaines couverts, on peut couvrir un petit peu plus de domaines, mais typiquement dans le secteur financier, on n'arrivera jamais à un degré d'intégration comme celui de l'Union européenne. Il faut de l'intégration politique pour ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les accords. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne.
Pour le CETA, les négociations ont duré 7 ans. L'accord fait 1500 pages. Est-ce qu'on se dirige vers ça aussi ou est-ce que ça va être encore plus long?
Alors, encore plus long, non, il n'y a pas de raison. C'est déjà un accord qui est ce qu'on appelle un accord de nouvelle génération, un accord global qui couvre les biens et les services, un certain nombre de normes. Donc, c'est un accord qui est effectivement assez complet. On voit le temps de négociation des accords commerciaux, il augmente dans le temps. On était plutôt sur des temps de 3 à 4 ans dans les années 90. Maintenant, on négocie sur les questions des services qui sont beaucoup plus complexes. On va plus loin dans l'harmonisation des normes sur les biens. Donc, c'est le cas pour le CETA. C'était le cas aussi pour l'accord avec la Corée du Sud. On voit qu'il y a un accord avec le Japon qui est en négociation depuis plusieurs années. Et donc, on se rapproche d'un accord. Donc, ça pose vraiment la question de... Il y a de la complexité et il y a aussi le temps de négociation. Parce que pour l'instant, l'hypothèse de la période de transition, c'est 2 ans. Comme vous venez de le dire, 8 ans de négociation pour le CETA, un accord qui sera au moins aussi complexe à négocier. On voit mal comment tenir ces délais de négociation et c'est une vraie question qui va se poser dans les mois à venir. Vers où on va et si on négocie une période de transition, est-ce que 2 ans, c'est vraiment suffisant pour aboutir à un accord entre les parties?
Alors Florence Fauché, justement, Vincent Vicard parlait de cette période de transition. En quoi ça consiste exactement?
Eh bien, il faut préparer la sortie. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le moment de sortie, il va falloir adapter tous ces textes. Il faut que les textes européens, par exemple, soient intégrés dans le droit britannique. Et donc, il y a ce qui s'appelle un Great Repeal Bill qui doit être adopté, qui doit ensuite être mis en place. Il y a, bien sûr, la mise en place simplement des contrôles à la frontière, s'il faut en avoir. Comment est-ce qu'on contrôle ces normes, etc. Qu'est-ce qui se passe pour, de manière très concrète, pour tout ce qui se fait de manière quasiment invisible. Et en fait, je pense qu'une des grandes difficultés, c'est que la plupart de la fluidité des échanges qui ont lieu au sein de l'Union européenne actuellement, tout est invisible. Donc, pour les négociateurs, en particulier quand ils sont pas nécessairement très préparés et très au fait du détail des normes juridiques qui existent, n'ont pas anticipé le degré de complexité qu'il va falloir donner pour détricoter en quelque sorte 43 ans d'échanges.
Florence Fauchet, d'autant que ça va être d'autant plus compliqué que cette période de transition est assez particulière puisque les Britanniques vont garder un accès au marché unique, mais ils ne pourront pas participer aux prises de décision puisqu'ils n'auront plus de députés européens, plus de commissaires, plus de participation au Conseil.
Bien sûr, mais c'est leur choix de quitter l'Union européenne. Et quitter l'Union européenne veut dire ne plus avoir la chance de participer à l'établissement des normes. C'est la difficulté ou les contraintes dans lesquelles se trouvent d'autres pays qui font partie du marché unique et qui ont des relations très étroites avec l'Union européenne. On pense en particulier à la Norvège ou à l'Islande, qui sont obligés de s'aligner sur un certain nombre de règles européennes, mais ne font pas partie des négociations et contribue financièrement. Donc oui, ça va être compliqué pour les Britanniques.
Christian Lequesne, on parlait de l'unité des Européens sur la première phase des négociations. Est-ce qu'elle pourrait se fissurer quand on va commencer à discuter unité monétaire et migration dans la seconde phase des discussions? Donald Tusk parle de sujets sur lesquels le manque d'unité est flagrant.
Oui, mais enfin, il n'en parlait pas par rapport au Brexit. Lui, il en parlait, si vous voulez, par rapport à la proposition de la Commission de quotas sur les réfugiés. Non, je pense que sur la question de la libre circulation liée au Brexit, il ne devrait pas y avoir trop de divisions entre les Européens. Tous les pays sont d'accord pour dire qu'ils veulent un traitement qui soit convenable des Européens en Grande-Bretagne et en particulier de ceux qui sont déjà là-bas.
Toujours sur cette question d'unité, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a dit que les Britanniques étaient de bons négociateurs, très malins, car ils appelaient directement les capitales, sont passés évidemment par Bruxelles.
Oui, mais ça tout le monde le fait, si vous voulez. Effectivement, la négociation multilatérale n'a pas tué la négociation bilatérale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les pays de l'Union européenne maintiennent des ambassades dans les autres pays de l'Union européenne. Non, là où ils sont assez bons, les Britanniques, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait quand même des oppositions de principe de la part des gouvernements, et donc ils ont développé une diplomatie à destination des milieux d'affaires. Ça, vous l'avez senti en France. Très vite, au sein du MEDEF, par exemple, vous avez eu des voix qui ont dit assez ouvertement « mais n'insistons pas trop sur la compensation financière, ce qui est important, c'est l'accord commercial ». Ça venait directement du lobbying ciblé fait par la diplomatie britannique sur le milieu d'affaires français. Vous avez eu exactement la même chose avec les chambres de commerce allemandes. Donc ils essaient d'avoir une diplomatie à destination des acteurs économiques pour essayer de contourner un peu les réticences de principe des milieux politico-administratifs.
Ce sera le mot de la fin. Enfin, le Brexit, lui, va continuer. Merci Christian Lequesne, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des questions internationales et européennes. Merci Florence Fauchet, professeur à Sciences Po au Centre d'études européennes. Et merci aussi à Vincent Vicard, économiste au CEPI, le Centre français d'études et de recherche en économie internationale. Sans oublier Pauline Leduc et Valentine Brasley qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain dimanche pour un nouveau Géopolitique. On parlera de la Russie de Vladimir Poutine à quelques mois de la présidence.